Soir Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous au Zimbabwe. Les électeurs choisissent lundi leur président, députés et conseillers municipaux. Ce sont les premières élections depuis la chute de l'ancien président Robert Mugabe qui a fait une sortie remarquée hier. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'ex-président Robert Mugabe a appelé les électeurs à faire tomber son ancien parti, la ZANU-PF, qui l'a poussé vers la sortie en novembre après 37 ans de règne. J'espère que le vote va faire tomber la forme militaire du gouvernement actuel, a lancé M. Mugabe dans une intervention surprise depuis sa résidence de Blue Roof à Harare. Je ne peux pas voter pour ceux qui m'ont maltraité, a poursuivi l'ex-chef de l'État. Lors d'une intervention à la radio d'État, le président Mnangagwa a affirmé que les événements de novembre 2017 ont donné au Zimbabwe l'occasion de rêver de nouveau. M. Mnangagwa, patron de la ZANU-PF, est donné favori du scrutin devant Nelson Chamisa, propulsé à la tête du MDC après le décès de son leader historique Morgan Tsvangirai. Emmerson Mnangagwa et Nelson Chamisa sont les favoris devant les 21 autres candidats. L'écart entre les deux s'est récemment réduit. Le président sortant est crédité de 40% des suffrages contre 37% pour son principal adversaire, d'après un sondage publié il y a 11 jours par le groupe Afrobarometer. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un deuxième tour sera organisé le 8 septembre.
Les Maliens, eux, attendent les résultats de la présidentielle de dimanche. Les autorités, au lendemain de ce scrutin à haut risque, sont plutôt satisfaites. On écoute le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du Mali, Amadou Ba.
En dépit de ce pression des dernières minutes qu'on a constatées, relatives à l'affaire du fichier électoral, nous sommes restés toujours confiants et nous avons cherché à établir la vérité pour que encore la confiance puisse venir dans notre processus. Et je profite de cette occasion pour saluer non seulement l'ensemble de nos concitoyens, les candidats qui ont beaucoup travaillé pour apaiser la classe politique aussi, la société civile, nos leaders et les partenaires au développement et les groupes d'observateurs nationaux et internationaux qui, dans les 48 heures, ont fait un travail de médiation qui nous fait arriver à ce jour heureux.
Amadou Ba, le président de la Commission électorale nationale indépendante du Mali. Retour maintenant avec notre envoyé spécial à Bamako sur la journée électorale hier au Mali. Près de 8,5 millions d'électeurs étaient inscrits et avaient le choix entre 24 candidats, dont le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son principal rival, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Jacques Aristide fait le point.
C'est après une pluie fine que les électeurs se sont rendus aux urnes dans la capitale, comme ici dans le quartier présidentiel de Sébinikoro, où le mouvement était assez fébrile.
C'était un droit de voter. Le changement que j'attends, c'est s'il pouvait aider les femmes à s'améliorer les conditions de vie et puis créer des centres de santé pour soigner les enfants et les dames.
C'est un devoir civique. Il faut que j'accomplisse ce devoir.
Le Mali est en proie à des attaques djihadistes dans le nord, malgré un accord de paix paraphé en 2015, de même qu'à des affrontements intercommunautaires dans le centre. Certains des Maliens qui ont voté ce dimanche espèrent définitivement tourner la page sur l'instabilité qui a trop duré. Maïga Ademaïga, des mouvements armés de la plateforme signataire de l'accord de paix.
Moi, je demande un apaisement total, parce qu'on ne peut rien avoir dans la violence. On est des croyants, on est des musulmans, il est temps qu'on appelle ces élections-là, que le meilleur gagne.
D'ailleurs, le gouvernement a déployé 30 000 hommes pour la sécurisation du vote. Ismaël Sako, du camp au pouvoir.
Depuis 6 mois, nous avons une armée sur le terrain, en collaboration avec les forces étrangères, qui traquent, qui pourchassent, qui remportent des victoires. Maintenant, sur le plan de la paix, aujourd'hui, vous remarquez que c'est le candidat qui, à la fois, est consensuel, mais qui n'est pas typé ethniciste. C'est le candidat du peuple, qui brasse le nord et le centre et le sud.
Mais il y a d'autres défis. Le pays est l'un des plus pauvres de la planète et pâtit d'un chômage élevé. Oumar Keïta, un jeune de 29 ans, a accordé sa faveur au candidat qui, d'après lui, va créer de l'emploi.
Et ce mot-là, il a dit que lorsqu'il sera élu président de la République, parce que chaque année au Mali ici, il y a des milliards qui disparaissent. Donc il dit qu'il va essayer d'employer les jeunes comme des vérificateurs, quoi. et les milliards qui disparaissent, il va essayer de donner ça aux jeunes.
L'accord trouvé à la veille du scrutin sur le fichier électoral n'a pas totalement dissipé la crainte de fraudes éventuelles, mais les autorités rassurent. Maïga Maria Maïga, des collectivités territoriales.
L'opinion internationale, l'opinion africaine, tout le monde est là pour veiller à la bonne marche de cette élection. Il ne peut pas avoir de tricage dans la mesure où tout le monde est associé. Et l'opposition et le parti gouvernemental, tout le monde est associé, donc il ne peut pas avoir de tricage.
Les observateurs électoraux étaient à pied d'œuvre pour surveiller le processus.
Le président du bureau du vote, à 7h déjà, il était déjà présent, tout était déjà mis en œuvre. Et puis, apparemment, quand même, il n'y a pas d'incident quand même à signaler.
Pas d'anomalie, seulement il y a des gens qui cherchent le bureau de vote, qui me demandent si par là. Donc, à part ça, je pense que tout va bien.
Les Maliens sont désormais dans l'attente des résultats. Les premiers devraient être connus dans le courant de cette semaine, avec l'éventualité d'un second tour le 12 août prochain. De Bamako, Mali, Jacques Aristide, pour VOA Afrique.
Merci Jacques. Les électeurs comoriens, eux, ont commencé à voter ce matin lors d'un référendum destiné à approuver ou non une réforme constitutionnelle qui permettrait au président Azali Assoumani de briguer deux autres mandats consécutifs. En cas de victoire du oui, Azali Assoumani, un ancien putschiste qui a déjà occupé la fonction suprême entre 1999 et 2006, a prévu d'organiser une élection présidentielle anticipée en 2019, ce qui lui permettrait théoriquement de pouvoir rester au pouvoir jusqu'en 2029. L'issue du référendum fait peu de doutes car l'opposition a appelé les électeurs à ne pas se déplacer. La police égyptienne enquête sur la mort dans des circonstances non élucidées d'un évêque copte dont le corps a été retrouvé dimanche dans son monastère au nord-ouest du Caire, a annoncé l'église copte dans un communiqué. Selon une source sécuritaire, l'enquête en cours vise à déterminer les raisons de la mort, le corps du défunt ayant été trouvé dans un couloir du monastère avec des blessures à la tête. Le corps de l'évêque a été transféré au médecin légiste et une autopsie doit être pratiquée aujourd'hui afin de déterminer s'il s'agit ou non d'un meurtre, a précisé la source sécuritaire. L'Érythrée et la Somalie ont signé aujourd'hui à Asmara un accord portant sur l'établissement de relations diplomatiques et l'envoi d'ambassadeurs dans leurs capitales respectives, a annoncé le gouvernement érythréen dans un communiqué. Les deux pays établiront des relations diplomatiques et échangeront des ambassadeurs, fait valoir cet accord intitulé déclaration sur des relations fraternelles et signée par le président érythréen Isaias Afewerki et son homologue somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins 36 femmes et enfants ont été enlevés par le groupe djihadiste État islamique lors de son attaque meurtrière la semaine dernière dans la province méridionale de Soueida, c'est en Syrie, a annoncé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces femmes et enfants de la communauté druze, majoritaire dans la province, ont été kidnappés lors des assauts coordonnés menés par les djihadistes le 25 juillet qui ont fait plus de 250 morts selon l'OSDH. L'ONG et un site d'information local, Soueida 24, ont fait état de 20 femmes et 16 enfants enlevés. Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison-Blanche le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, un dirigeant européen populiste avec lequel M. Trump a des affinités, notamment sur l'immigration et le commerce. Le président américain a accusé par ailleurs dimanche le procureur spécial Robert Mueller d'avoir des conflits d'intérêts qui devraient lui interdire de mener l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. Dans une série de tweets dans lesquels il attaque la crédibilité du procureur spécial, M. Trump déclare avoir eu au cours des années une relation d'affaires très mauvaise et conflictuelle avec le procureur. Dans le passé, M. Trump avait déjà évoqué l'existence de conflits d'intérêts concernant M. Mueller, mais c'est la première fois qu'il détaille publiquement ses accusations. Et pour terminer, quelques 12 000 pompiers poursuivent aujourd'hui en Californie la lutte contre des incendies qui ont fait au moins 7 morts, mais la sécheresse alimente des brasiers parfois encore incontrôlables qui ont déjà dévoré des milliers d'hectares. Depuis jeudi, deux pompiers ont été tués dans le comté de Shasta et trois personnes, une femme de 70 ans et ses deux arrière-petits-enfants âgés de 4 et 5 ans, ont péri lorsque leur mobile home a été pris par le feu. Hier dimanche, les restes d'une personne qui avait ignoré les ordres d'évacuation ont été retrouvés dans une résidence incendiée selon les autorités. Prochain journal, dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francis. Merci pour votre fidélité et bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.